Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Coin de la Table, le podcast qui démonte les jeux. Et je suis en compagnie
De Pascal, de moi-même, bonjour.
Et voilà, donc pour ce nouvel épisode où nous allons de nouveau être tous les deux, on a décidé d'attaquer un sujet un peu simple, hein, parce qu'on s'est dit que les sujets précédents, ils étaient trop compliqués. Donc c'est un sujet qui est le jeu est-il un objet culturel?
Oh là là,
Facile.
c'est ouais, facile.
Voilà. Bon, de toute façon, pour nous, la réponse est oui. Donc, on peut arrêter le
Voilà,
podcast tout de
alors on
suite,
est
c'est
d'accord tous
facile.
les deux. La réponse est oui. Je pense que voilà, des milieux d'où on vient et la façon dont on aborde les choses.
Voilà. Donc, fin du podcast, c'était très très bien. Bon, plus
À la semaine
sérieusement,
prochaine.
à la semaine prochaine, jouez bien. Non, plus sérieusement, on s'est dit qu'on allait diviser le podcast en deux. Donc, comme vous avez pu voir, on vous a demandé un appel à la contribution via les réseaux sociaux sur Facebook. Donc, vous avez été pas mal à nous répondre. Donc, on vous en remercie. On a pas mal de matière sur ce sujet. C'est aussi un sujet qui est à la mode en ce moment, puisque le jour où sera diffusé le podcast, donc le 18 janvier, sera aussi diffusé la Trick Track TV consacrée à ça. Donc voilà, c'est un sujet qui est peut-être le sujet à la mode de 2018, donc on est content de participer à cette mode. Et donc on va diviser le podcast en deux, on va vous essayer de parler, de discuter un peu aujourd'hui des aspects de définition de objet culturel, oui, non, pourquoi, qu'est-ce que c'est, etc. Avec différentes matières que vous nous avez apportées. Et là, dans 2 mois, on parlera plutôt de la partie reconnaissance, en fait. Est-ce que c'est un objet culturel reconnu? Qu'est-ce que c'est que la reconnaissance d'un objet? Est-ce que c'est lié au nombre? Et quelle est la rétro-influence de la société envers le jeu et vice-versa et réciproquement?
Voilà,
Tout ça.
tout à fait. Alors, du coup, par quoi est-ce qu'on commence aujourd'hui?
Eh ben, d'abord, peut-être pour poser un petit peu des bases, on voudrait commencer par une
Poser une petite
définition.
définition, ouais.
Voilà.
Définition de la culture, par exemple.
Voilà, exactement.
Donc, tu me permets? Voilà.
Vas-y.
Alors, on fait très très simple, encore une fois. On va sur Wikipédia, on tape culture, et qu'est-ce qu'on obtient? En philosophie, le mot culture désigne ce qui est différent de la nature, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre de l'acquis et non de l'inné. La culture a longtemps été considérée blablabla. En sociologie, la culture est définie de façon plus étroite comme ce qui est commun à un groupe d'individus et comme ce qui le soude. Ça, je trouve ça plutôt cool. Et ce que j'aime bien, c'est ce troisième petit paragraphe. Par abus de langage, on utilise souvent le mot culture pour désigner presque exclusivement l'offre de pratiques et de services culturels dans les sociétés modernes, en particulier dans le domaine des arts et des lettres.
Facile.
Voilà.
Donc voilà, pour être vraiment dans l'aspect définition, la première partie, on pense vraraiment à la culture, peut-être de manière un peu béotienne, comme le capital culturel, c'est-à-dire la culture comme la confiture qu'on va étaler, c'est-à-dire je sais des choses. Et c'est vrai que peut-être, si on parle en termes d'objet, ce qui nous intéresse, c'est peut-être cette définition plus sociologique. Et pour compléter un petit peu cette définition de Wikipédia, on peut partir sur la définition reprise par l'UNESCO qui nous a été transmise par Paul Gara, notre consoeur podcasteuse. Donc,
Salut elle.
salut Paul Gara, merci beaucoup. Et donc, du coup, sur cette définition UNESCO, je vais pas vous la faire en entier, mais globalement, par rapport à la convention UNESCO, on parle de biens, meubles ou immeubles qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d'architecture, d'art ou d'histoire, religieux ou laïque, etc. Ou présentant un intérêt historique ou artistique, les œuvres d'art, les manuscrits, livres et autres objets d'intérêt artistique, historique ou archéologique. S'en suit à ça d'autres définitions telles que des édifices, mais on va passer sur cette partie-là. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut partir de manière très naïve sur cette définition artistique, historique, archéologique, puisqu'on a des objets, hein. Le jeu, c'est avant tout quand même, et ça c'est un truc sur lequel on va revenir, un objet. C'est-à-dire que c'est un objet avec lequel on va interagir, qu'on peut vraiment palper, qu'on peut utiliser.
Alors là, on parle beaucoup de jeux modernes.
Oui, c'est vrai,
Voilà,
oui.
parce que du coup, si on parle de jeux plus anciens ou de jeux avec des définitions générales, par exemple le pierre, feuille, ciseaux, t'as pas de matériel.
Oui, tout à fait. C'est vrai que là, effectivement, je parle de jeux matériels. C'est vrai qu'on va étendre un petit peu aux jeux qui peuvent être immatériels, comme pierre, feuille, ciseaux dans un temps d'après. Mais effectivement, là, si on prend cette définition-là, on peut dire que le jeu, effectivement, a des enfin, un jeu d'échecs, par exemple, peut être exposé parce qu'il a un suivi archéologique, historique. Le jeu d'échecs a été créé dans une société. Il a ensuite évolué. Il a participé à certaines constructions de certains pans de société au fur et à mesure de ses exportation. Donc voilà, on a une première possibilité, un premier angle d'approche. Et donc sur la partie pourquoi est-ce qu'on parle de ça, c'est la notion justement comme on disait d'objet, mais aussi ce qui fait la spécificité du jeu en tant que qu'objet potentiellement immatériel, c'est la notion d'interactivité, d'interaction. Puisque un jeu, a priori, pour pouvoir vraiment réussir à incorporer, à intégrer ce que c'est qu'un jeu et qu'est-ce qu'on peut en faire avec, comment est-ce qu'il peut participer potentiellement à notre culture et en quoi il est ancré dans la culture, il faut pouvoir l'utiliser. Et l'utilisation, ça implique pour, si on prend les jeux de société physique, un objet qui va être matériel. Donc c'est ce qui fait un peu la différence avec d'autres objets, d'autres médiums, d'autres médias comme le cinéma, le théâtre ou des choses comme ça, où on peut pas avoir ce genre de choses parce qu'on n'a pas d'interaction.
Voilà, effectivement, il y a cette notion d'interactivité qui est propre au jeu, qui rend le jeu un petit peu, qui est pas, on n'a pas une espèce de, on n'est pas frappé directement par le jeu, etc. D'ailleurs, je vais citer notre collègue Cyrus.
Salut Cyrus.
Salut Cyrus. Ouvrez les guillemets. Un joueur averti voit l'œuvre derrière le jeu, mais pas le premier qui dame venu. Alors que la musique, par exemple, c'est l'œuvre qui te frappe en direct. Alors oui, mais non. Parce que
Alors si la phrase est vraie pour le coup,
la phrase est vraie pour le coup,
mais
mais toute œuvre, que ce soit musicale, cinématographique, littéraire, etc., c'est un produit culturel au sens de la définition, j'ai envie de dire, sociologique de la culture, qui est que elle est issue bah, justement d'une culture et que elle est interprétée par cette culture et etc etc. Par exemple, si tu regardes un film ouzbek, nous il y a des tas de clés en tant qu'Européens qui vont nous passer au-dessus. On va peut-être capter des trucs, etc. Il y a peut-être des choses qui vont nous passer complètement au-dessus, qu'on va pas interpréter de la même manière. Il y a un autre exemple, je crois que j'en avais déjà parlé une fois. C'est le fameux réaction au procès de Kafka, qui est que quand Kafka a écrit le procès, il le voyait comme une comédie.
Ah oui, c'est vrai, on en a parlé de
Voilà,
ça.
et sauf que post-Seconde Guerre mondiale, les gens le voyaient plus du tout comme une comédie. Hein, le bouquin, il n'y a rien qui a changé, il n'a pas été édité, quoi que ce soit. Mais par contre, le contexte culturel, le contexte sociétal, a fait que l'interprétation de l'œuvre change tout. Et pourtant, on reste dans la même société, hein, Europe, occidentale, etc.
Donc l'idée, c'est que finalement, toute œuvre, peut-être qu'il y a une notion d'accessibilité ou pour des œuvres musicales ou
Voilà,
littéraires,
il
on
y a
peut se faire une interprétation.
toujours besoin de. Effectivement, il y a toujours un filtre socioculturel qui se pose entre l'œuvre et le spectateur. Et deuxièmement, alors après aussi, ce qu'on peut dire dans le. Ce qui est l'argument aussi dans la séparation de l'aspect direct du jeu, c'est le fait qu'on doit lire les règles quelque part. On doit au moins expliquer les règles. Voilà, ça, c'est un temps qu'on perd alors qu'un film. Une musique, on le lance, le bouquin, on l'ouvre, et on est parti. Encore une fois, j'ai envie de dire, ça dépend de l'œuvre. Il y a des films qui sont complètement ininterprétables sans avoir toutes les clés, qui sont parfois très obscures. Pareil, hein, la peinture, on dit, pour ceux qui ne savent pas, j'ai étudié l'art. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les musées en disant, oh là là,
Révélation.
tatatin, qui vont dans les musées, oh là là, cette toile, elle frappe d'émotion, etc. Blablabla. Et le mec, il dit ça devant une peinture de la Renaissance. Alors oui, effectivement, il y a de l'émotion, sauf qu'une peinture de la Renaissance, sans avoir le codex pour les décoder, parce que le moindre petit symbole, le moindre petit truc a une signification très précise qui n'est pas directe, hein, qui est vraiment un code. Si tu n'as pas le codex, qui avait un codex officiel en plus, hein,
Ah,
tu
il y avait un
comprends
codex
pas.
de comment lire en fait les œuvres de la Renaissance.
Ouais,
La
quasiment.
Renaissance,
Bah, que les
d'accord.
mecs, que les peintres, ils disaient voilà, si la main est dans telle position, ça veut dire ça. S'il y a tel animal, s'il y a tel fruit, tel truc, ça veut dire ça, etc. Sauf que la plupart des gens qui vont dans les musées aujourd'hui n'ont pas ce codex, ils n'ont pas cette clé d'interprétation.
Bah, c'est vrai qu'au final, ouais, c'est assez intéressant qu'on parle d'explication de tu parlais d'explication de règles là tout à l'heure. Ça me permet de rebondir sur justement un commentaire qu'on a eu de Yandrev, pardon, qui est donc ludothécaire et qui fait les fameuses vidéo-règles. Bonjour Yandrev, si tu nous écoutes, qui parle justement des jeux anciens qui s'inscrivent dans une pratique qui se transmet. Donc typiquement, là c'est l'axe, l'angle de la pratique qui justement semblait être un frein, parce qu'on se dit, ok, on peut pas être frappé directement par l'objet jeu parce qu'il faut le pratiquer, il faut interagir avec. Donc voilà, même en dehors de toute clé de lecture qui peut nous manquer, on peut se dire, bah, ça peut être bloquant. Cela étant dit, des objets comme les échecs, le tarot, la belote ou le monopoly, donc cité par Yandrev, et bon, j'imagine que voilà, c'est des jeux qui sont connus par pas mal de gens. C'est un espèce de patrimoine quelque part où finalement, moi je me demande en fait si typiquement les échecs, est-ce qu'on a besoin de connaître les règles des échecs et est-ce qu'on a besoin de savoir, d'avoir déjà joué aux échecs ou d'avoir un échiquier chez soi pour pouvoir considérer que les échecs potentiellement peuvent faire partie de notre patrimoine culturel ou de notre culture. Et je vais prendre un exemple qui est, c'est assez intéressant, moi, tant qu'on est dans les révélations, hein, Pascal, tu as étudié l'art, et ben moi j'ai fait des compétitions d'échecs quand j'étais petit.
Mon Dieu, ça m'étonne pas du tout.
Oh là là ! Comment ça ne s'étonne pas ? Donc j'habitais à Montpellier, et Montpellier était inscrit dans une région qui était très active au niveau des échecs, c'est-à-dire que c'était enseigné pas mal dans les différentes écoles du coin, donc à Bayargues. Avant, j'étais aussi dans le Vaucluse. Bon, je ne vais pas raconter ma vie éternellement, en fait, mais quoi qu'il en soit, la pratique des échecs était très ancrée dans nos écoles. On jouait aux échecs, c'était vraiment le club un peu populaire. Et quand je suis monté après dans la région parisienne, j'ai absolument pas retrouvé cette dynamique. Le jeu d'échecs, ça devenait complètement anecdotique. Enfin, je veux dire, c'était pas pratiqué, il n'y avait pas de club, il n'y avait pas de jeunes qui pratiquaient autour de moi spécialement. Bon, par contre, il y avait d'autres jeux, par exemple, de cours de récréation qui étaient pratiqués et qui étaient spécifiques, quoi. Ah bah, parce qu'elle venait de marquer sur sa feuille jeu de cours de récré.
Point d'interrogation, ouais. Ouais, bah, c'est la question, justement, parce que tu parlais de jeux ancestraux qui s'enseignent. Je pense que le jeu de cours de récré, ça s'inscrit dans une forme de tradition orale. Et qu'en plus, je pense qu'on les appelle aussi comme ça, parce qu'il y a une vérité, c'est que ce jeu ne sort jamais des cours de récré, entre guillemets. Enfin, bon, les gamins, ils jouent dehors, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la cour de récré, c'est l'endroit où ils se transmettent. Et une fois que les enfants quittent l'école primaire ou quoi que ce soit, etc., ils ne font plus ce genre de choses. Parce qu'à chaque fois, je suis dans mon école, il y a une espèce de petite initiative de « j'ai grandi ». Et donc, on arrête de faire ça. Mais du coup, comment se transmet ce jeu? En fait, il reste toujours dans le truc. Il reste, il ne sort pas de la cour de récré parce que c'est l'endroit où il se transmet, c'est l'endroit où il se pratique. Et ça ne va pas plus loin. Il y a un truc qui est assez intéressant.
Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai que finalement, et puis après, il y a les variantes d'école en école où.
Ouais,
c'est marrant. Moi, ça me fait penser à un jeu vidéo, à savoir Final Fantasy VIII.
Le triple triade.
Exactement.
Avec les règles régionales. C'est, voilà.
Voilà. Donc, c'est assez rigolo. Final Fantasy VIII, célèbre RPG sorti sur la PS1 il y a pas mal d'années maintenant.
Ouais, c'était bien en 98 ou un truc comme ça.
Ouais, c'est ça. Vous voyez que les podcasteurs ont bien fait leur travail d'archivage. Mais,
alors, je peux te sortir la boîte. Hein. Elle est là, là.
Ah, waouh, wow, il se la pète. Exceptionnel. Donc, nous, effectivement, au sein de ce RPG, il y a un jeu de cartes qui s'appelle le triple triade, qui est un jeu un peu auxiliaire. On peut défier des gens un peu aléatoirement et les combattre avec ce jeu de cartes. Et effectivement, il y a des règles régionales. Donc, au fur et à mesure qu'on explore le monde de FF8 pour jouer au jeu et faire la quête principale, eh ben, on va avoir des règles supplémentaires de ce jeu qui vont s'implémenter en plus et qui vont se surligner, quoi, qui vont remplacer des règles précédentes.
Alors, pour l'anecdote, ce jeu, il y a des gens qui sont amusés à faire un logiciel pour jouer à ce jeu sur PC. Il est toujours pratiqué.
Ah bah.
Il y a une communauté active. Il est jouable en ligne avec des gens. Il y a toujours le même système d'échange comme dans le jeu. D'ailleurs, ce jeu a un côté jeu de cours de récré, un vrai jeu de cours de récré, parce que tu as le principe que quand tu perds, tu perds une de tes cartes. Le gagnant choisit une de tes cartes et la garde.
Et, oui.
Et ça, c'est vraiment typique en plus de ce genre de jeu. Mais voilà, bref.
Ouais, non, mais ben, c'est assez intéressant de voir ça sur cet angle-là. Un autre angle sur lequel on peut peut-être disserter un petit peu, c'est la notion. Alors ça, je reprends aussi d'une citation qui, en fait, un parti pris qui a été regroupé sur pas mal de gens. Vous êtes pas mal à parler de la notion d'artistique, mais dans le sens esthétique. Donc, par exemple, les illustrations et puis la création du jeu en tant qu'objet. On parle pas mal d'illustrateurs, donc il y a notamment Serge Mascadar qui nous parle effectivement de la notion d'illustration. On parle d'artiste de haut niveau pour donner vie aux univers. Donc voilà, je cite. Donc cette notion-là de voilà, est-ce que finalement le jeu de société peut avoir ou pas. Quel est le lien en fait entre le jeu de société et cette notion esthétique, à savoir art, peut-être plastique. Je pense aussi à des jeux assez insolites comme typiquement je pense à des casse-têtes comme le Perplexus par exemple, qui a un parti pris esthétique un peu particulier. Donc ce casse-tête avec la bille, vous savez, où dans une sphère il faut bouger la sphère.
Je pense que c'est un jeu un peu comme le monde, c'est juste une version un peu updatée quelque part.
Oui, c'est vrai que la notion de casse-tête.
De faire, moi, je me souviens d'une espèce de jeu où tu avais deux manettes qui, pour faire bouger un plateau sur deux axes.
Tu
devais faire bouger la bille.
Ouais, c'est ça.
Moi, c'est intéressant ce que tu dis là, mais ça me renvoie encore une fois, et là, je ressors ma science de mec qui a fait des études d'art. Ça me renvoie à la notion que beaucoup de gens confondent le joli, le beau, avec l'artistique. Ah. Artistique ne veut pas forcément dire beau, déjà. Déjà dans l'art, t'as cette notion que quelque chose d'artistique, dans l'artistique, t'as une volonté avant tout. T'as souvent ce qu'on appelle un manifeste, hein, et du genre, bah, un peintre, ce qui fait le peintre, c'est pas forcément juste qu'il a mis son pinceau sur la toile et qu'il fait des trucs, c'est que bah, il a une volonté derrière et il explique pourquoi il le fait. C'est pour ça que bon, personnellement, je sépare ce qu'on appelle les artistes et les artisans. Un illustrateur, pour moi, attention, je vais me faire taper dessus, c'est pas un artiste, c'est un artisan, mais artisan n'est pas du tout un mot péjoratif. C'est un ensemble de compétences et de savoirs que tu mets en application pour faire quelque chose de joli ou d'utile. De tes propres mains. Donc je trouve même que c'est même très enfin voilà, c'est bien. C'est bien d'être artisan. Moi je me considère quand le peu de fois où je mets la main à la pâte pour faire quelque chose, je me considère plus comme un artisan que comme un artiste.
Alors j'ai du mal à comprendre peut-être la subtilité, parce que en fait quand si on prend l'exemple des jeux de société contemporains modernes, à savoir toutes les sorties de tous les jeux que vous connaissez, Can, etc.
Alors c'est parce que souvent comme jeu, alors avoir un joli jeu avec des belles illustrations, c'est un argument de vente. Ça, tu vas plus facilement toi-même aller acheter un jeu, être attiré par une boîte, tu fais tiens c'est joli, ça a l'air sympa, que si c'était une boîte blanche avec écrit le titre du jeu, et que derrière sur les cartes t'as juste une carte blanche pareil avec écrit un nom de carte et un nom d'action sans truc.
Moi ce que je me demandais, c'est en fait avec l'accès, avec l'œil en fait du design, c'est-à-dire en gros quand effectivement une illustration, enfin quand on a une illustration, un type d'illustration pour un jeu, comme tu l'as dit d'ailleurs, ça répond à une contrainte qui est d'avoir un jeu qui va être plus attrayant pour les utilisateurs finaux, même si la finalité de l'éditeur est commerciale, hein, puisqu'on est bien d'accord que c'est pour...
Purement vénal.
Purement vénal, oui, de toute façon, les éditeurs ne pensent qu'à l'argent, évidemment, c'est une plaisanterie, ne vous inquiétez pas. Non, mais on a une notion de...
on vous aime, continuez ce que vous faites.
Continuez, voilà. Non, il y a une notion de, on va finalement faire quelque chose pour que ça se vende mieux, mais l'objectif, c'est de pouvoir... Enfin, ça va se vendre mieux parce qu'on va augmenter la qualité et que l'utilisateur va être plus satisfait, en fait, de son expérience, parce que le jeu va être joli et que ça va plus le porter. C'est-à-dire que moi, typiquement, c'est vrai que comme pas mal de gens, j'aime bien les jeux entre guillemets jolis, en tout cas qui me plaisent esthétiquement, et ça va contribuer à mon plaisir, à mon expérience de jeu. Et donc je me dis, ça, c'est finalement une approche design. C'est-à-dire, je vais designer une illustration, donc je vais pour ensuite la produire avec un œil artisanal.
On va parler de design graphique.
Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça.
Faut pas comprendre avec le game design.
Ah, mais non, mais justement, c'est là que je fais un lien. C'est que je pense que les illustrations sont designées en termes de conception. Ouais. Et ensuite créé de manière artisanale, donc de design graphique, donc oui, c'est là d'accord. Que tout est confus. Okay. Mais pour moi, en fait, je vois un rapport avec
le... D'abord, une conception iconographique,
Ouais, c'est ça.
Et après,
c'est ça.
Qui est joué, exactement. Qui est lié au gameplay.
Ouais, voilà, et parce que tu réponds à un objectif qui est collé à la mécanique, collé à l'univers que tu veux déployer et collé au fait que tu veux que le jeu se vende plus. Tu vois, d'accord. Donc en fait, tu vas créer ton illustration, mais avec un objectif en tête.
Ça me rappelle un rendez-vous avec un éditeur, justement, où il nous avait montré un prototype de jeu.
Ouais.
Et le thème, c'était des batailles japonaises.
D'accord.
Voilà, des batailles shogunat, tout ça. Le mec nous expliquait, alors le thème là qu'on a, il fonctionne, mais c'est juste un thème pour le proto, parce qu'en fait le vrai thème c'est une licence et on n'a pas le droit d'en parler.
D'accord, ouais.
Du coup voilà.
Ouais, c'est ça, et donc du coup c'est vrai que les illustrations vont être orientées sur cette licence. Et pour moi, s'il y a un vrai lien avec le game design, donc là, vraiment la notion de conception du mécanisme, de l'expérience, de l'interaction, etc., où souvent dans une démarche éditorial, les jeux vont avoir des game design, donc vraiment une conception qui va être orientée également pour répondre aux besoins d'un marché. C'est-à-dire qu'en fait, un éditeur, par exemple, moi j'ai un prototype d'un jeu asymétrique à 3 joueurs strictement, qui va mettre en scène des guerres contemporaines et des marchands d'armes, des trucs comme ça. Bon, tout ça pour dire, je pense que ce genre de jeu a une chance quasi inexistante de se faire éditer en tant que telle, parce qu'elle répond à un marché d'ultra niche et finalement va pas avoir vraiment de logique commerciale. Et donc du coup, ce que je me dis, c'est tu fais du game design pour aller répondre à des besoins éditoriaux, et tu fais de l'illustration design, c'est moche ce que j'ai dit, mais pour répondre à un besoin également. Donc quelle est la différence entre ces deux trucs là et qu'est-ce qui fait que finalement tu peux t'affranchir qu'est-ce qui fait que tu vas avoir de l'art? Est-ce qu'on peut considérer, alors là je vais un peu lancer un pavé dans la mare, hein, mais est-ce qu'on peut considérer qu'un jeu qui est construit avec une logique commerciale peut être considéré comme artistique?
Wow.
C'est un peu de l'objet culturel, mais c'est ça étant.
Grosse, grosse question. Bah, si tu fais avec un objectif purement commercial, alors est-ce que les films, encore une fois, on va faire un parallèle, est-ce qu'on propose une question, c'est pour décomposer la question, ça m'aide à réfléchir de faire ça. Est-ce qu'un film commercial, disons les Avengers, est dénué de toute forme de création artistique? Alors, ben, il y a des gens qui diront bah ouais, parce que c'est de la merde.
Oui, en dehors de toute considération.
Ouais, voilà. Derrière, c'est pareil, hein, n'importe quel film ou n'importe quelle œuvre est aussi l'issue de la réflexion et de la création, et c'est l'enfant. Il y a toujours une filiation quand tu crées ton jeu. Tu le fais un petit peu en disant ah bah tiens, j'ai bien aimé cette mécanique dans ce jeu-là, j'aimerais bien l'adapter à ma sauce, mais je trouvais que cette autre mécanique elle fonctionnerait bien avec, mais vient d'un autre jeu, enfin etc etc. Et donc tu en reviens toujours à une espèce d'arbre généalogique de l'œuvre. Et je pense que la notion de culture et la notion de culturel et la notion d'artistique, il y a aussi cette notion d'arbre généalogique. Tout à l'heure, je parlais de manifestes d'artistes. Bon, bah, la plupart des artistes, dans leur manifeste, ils vont citer d'autres artistes. Ne serait-ce que pour dire, lui, c'est un connard, je l'aime pas. J'ai pas envie de faire ce qu'il a fait, ou je pense que lui, ce qu'il a fait, c'est de la merde, et donc moi, je vais faire mieux.
Ou alors d'être avec des trucs un peu diplomate, du style nous pouvons considérer l'œuvre de telle personne, il est désormais temps d'aller plus loin, ou des choses comme ça.
Ouais. Alors moi, je me souviens d'une vidéo interview de... Attends, je sais plus si c'était lequel, c'était César ou l'autre sculpteur qui faisait des accumulations. Et du coup, t'en avais l'un des deux à l'écran, il disait « Voilà, de toute façon, machin, c'est un connard, il m'a tout piqué, j'ai fait les compressions avant lui. » Donc voilà.
Je pensais à ce que Dali disait, je suis pas sûr de l'authenticité de la citation, parce que je l'ai pas vérifié, mais je pense que oui, Dali avait dit « La différence entre les surréalistes et moi, c'est que moi, je suis surréaliste. » Ok.
Alors sinon, tant qu'on veut rester dans les citations comme ça, c'est Picasso, je crois, qui avait dit « Un bon artiste s'inspire, un excellent artiste vole. »
Ah, d'accord, c'est intéressant, ouais.
Voilà, intéressant. À peu près, je paraphrase à peu près, je suis pas sûr que ce soit exactement les mots, mais bon.
Un autre truc, moi, qui me pose question sur cette notion d'objet culturel, c'est assez intéressant, c'est la notion, alors c'est peut-être un peu corrélé à voir à quel point, mais c'est la notion de reconnaissance légale. Bon, ok, je grignote un peu sur le sujet du podcast de dans deux mois, sur la reconnaissance, mais sur la notion de légalité. Hein. Et moi, il y a un truc qui m'a toujours un peu questionné, intrigué, c'est en fait cette espèce de paradigme, d'idée en fait générale, qui est de dire qu'il est très difficile de protéger un jeu de société. Donc, c'est-à-dire qu'un jeu de société, c'est une question qui revient très fréquemment dans les communautés d'auteurs. Hein. Il y a notamment des articles qui ont été écrits sur la SAJ, donc la Société des auteurs de jeux. Voilà. Notamment, je crois que c'est Henri de Carmarec qui a fait un super boulot là-dessus. Voilà, Henri, j'espère que c'est toi, salutations. Et qui est, comment est-ce qu'on fait pour protéger un jeu? C'est très compliqué parce qu'on ne peut pas protéger un jeu en tant que tel d'un point de vue légal parce qu'on
peut. Il n'y a pas de statut sur les mécaniques de jeu en soi.
Voilà, c'est ça. Et donc, c'est vrai qu'on va généralement dire, soit tu fais une enveloppe solo et tu essayes de jouer avec une sorte de jurisprudence si jamais tu te fais voler des choses en considérant que tu as un objet qui est relativement proche mais c'est très flou et pas très bien défini. Ou alors, ce qui est conseillé, c'est d'essayer de donner le plus de visibilité à son prototype, ce qui permet en fait de faire en sorte qu'on associe le plus vite possible l'auteur ou les auteurs du jeu au jeu en question, quoi. Donc c'est vrai que c'est un truc qui me questionne parce qu'on c'est quelque chose qu'on a des difficultés à concevoir pour d'autres médias en tout cas si on prend d'un point de vue média de consommation, on a du mal à concevoir ça, quoi.
Ouais.
Je pense.
Je pense que c'est quelque chose qui est très compliqué parce que où commence le vol, le plagiat, l'aspiration, voilà. Je sais que des fois il y avait le film qui était adapté de la BD Dredd, qui est sorti récemment, enfin Judge Dredd, qui avait été décrié un petit peu parce que c'est The Raid mais dans le futur. The Raid étant mon film d'action préféré depuis un petit bout de temps récemment, voilà. Effectivement, est-ce que ça en fait un mauvais film? Est-ce que voilà, non, le film reste sympathique, il est dans son univers et ça, blablabla. Pour les jeux, c'est pareil, ne serait-ce que pour le jeu vidéo, et je pense que c'est encore plus dans le jeu vidéo, et je pense, je vais même faire m'avancer sur un truc, c'est que depuis que les ventes de jeux de plateau explosent ces dernières années, en même temps, on a une espèce de d'accélération du recyclage de principes de jeu, de mécaniques de jeu.
D'accord.
Je sais pas ce que t'en penses. Plus il y a de jeux qui sortent, plus du coup, en fait, on va avoir droit à des jeux qui, quelque part, s'inspirent du succès de l'année d'avant, récupérant certaines de ces mécaniques.
Ah, c'est intéressant parce que moi j'ai l'impression que ça peut être vrai effectivement, mais peut-être, enfin moi c'est vrai que je suis plutôt les, entre guillemets, les innovations, et j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'innovations assez fortes ces dernières années, ouais, avec notamment l'arrivée, mais pour le coup qui commence à se recycler, donc c'est vrai que là on rejoint un peu ce que tu dis, des legacy, des jeux type legacy, enfin bon j'ai passé la moitié des podcasts précédents, vous parlez de Pandémie Legacy, d'Unlock et de jeux comme ça, de Time Stories, donc des jeux où finalement on est sur des scénarios qui sont uniques, des scénarios qui vont, c'est vrai que ça, du coup ça questionne pas mal la notion aussi d'objet matériel, parce qu'une fois qu'on a joué à un scénario d'Unlock ou qu'on a fait une partie de Time Stories, est-ce que enfin on peut pas revivre l'expérience, non seulement on peut pas revivre l'expérience qu'on a vécue, mais bon ça à la limite quand on voit un film deux fois on peut pas revivre la même expérience.
Tu peux revivre la même expérience, tu...
Ouais, mais le delta est très important.
Une fois que t'as vu Sixième Sens, voilà.
Oui, non, t'as raison, ouais. C'est vrai quand il y a un truc qui est basé sur
un plot twist, Sixième Sens, Fight Club, Usual Suspect, ou même une fois que t'as appris que spoiler alert, Dark Vador c'est le papa de Luke Skywalker, enfin du spoiler alert, voilà.
J'espère qu'on n'a pas perdu trop d'éditeurs sur cette révélation fracassante, parce que fou. Mais par contre, c'est vrai qu'en dehors de ça, quand tu prends une musique, typiquement, une musique que j'aime bien, moi, ça m'est arrivé de la passer en boucle des centaines de fois, des milliards de fois.
Il y a un truc avec la musique aussi, qui est différent, c'est que ça fait appel à des parties de ton cerveau directement, qui sont capables de déclencher des émotions d'une façon plus forte que des images ou des choses. C'est pour ça que la musique en soi est toujours utilisée dans le chamanisme, quasiment. Hein, ça revient très très souvent de voir dans les danses, les trucs, il y a toujours un instrument de musique, une espèce de machin, ça aide en fait à la méditation. Et à fait de rentrer dans un état truc.
Ouais, bon, d'accord. Bon, ok. Bon, c'est assez intéressant pour le coup. Mais bon, c'est vrai que je pensais à finalement comparer le jeu à usage unique ou assimilé avec finalement les autres. Parce que même Sixième Sens, au final, tu peux. Bon, enfin, j'ai déjà revu une deuxième fois. Ouais. C'était quand même assez chouette, quoi. C'est vrai que, alors que je me vois très mal rejouer une partie de Time Stories ou d'Unlock.
Parce que l'intérêt. En fait, ça dépend de comment est construit le jeu. L'intérêt d'un jeu comme Unlock, c'est la découverte. C'est ce que tu ressens. C'est de réussir à découvrir les trucs, à trouver les choses par toi-même, et c'est ce que tu ressens en tant qu'être humain, de fait d'avoir réussi à trouver la solution. C'est le plaisir du casse-tête, c'est de le résoudre.
Okay, ouais, d'accord. Mais alors du coup...
Le problème des films à twist, c'est que très souvent, enfin ou deux films hein, par exemple, c'est que... t'as des films qui te donnent pas les clés, hein, qui te sortent le plot twist à la fin, et je les aime pas en général. Mais c'est pas exactement pareil. Même une fois que le truc est résolu, tu peux quand même le revoir, parce que bah, par exemple, à Sixième Sens ou Fight Club, tu peux les revoir et te rends compte et recomposer les trucs. Ah oui, là ça marche.
Tout à fait. Ouais, mais c'est parfaitement mon propos. C'est que justement, peut-être même on est vraiment sur le jeu à usage unique qui a une fonction assez.
T'as même un intérêt à le revoir une deuxième fois, j'ai envie de dire.
Ouais, c'est ça. Unlock, tu n'as pas d'intérêt, enfin, ou très très peu, à rejouer une deuxième fois au scénario d'Unlock. Une murder party, c'est dur de la rejouer une deuxième fois, quoi, tu vois. Enfin, pour la plupart, pas pour toutes, bien sûr, mais les jeux freeform alternatifs. Mais c'est vrai que globalement, on est sur. On n'a pas parlé de jeux de rôle d'ailleurs, c'est assez intéressant. Bon, de toute façon, on savait que le sujet allait être assez dense et qu'on n'allait pas pouvoir parler de tout ce qu'on voulait.
Un jeu est-il un modèle culturel J'allais dire Kaamelott, qui est le nombre de références à Kaamelott, au jeu de rôle dans Kaamelott. Dans d'autres films, dans d'autres trucs, l'influence que ça a eu sur le jeu vidéo, et que du coup, en tant que grand-papa ou grand-maman, le jeu de rôle a eu une influence sur le cinéma, parce qu'il a eu une influence sur le jeu vidéo, il a eu une influence sur d'autres trucs, voilà.
Ouais, je pense que du coup, ça tombe bien, c'est une bonne conclusion, parce que tu conclues sur l'ouverture de notre prochain podcast sur justement la rétro-influence, quoi, sur justement comment est-ce qu'un jeu est influencé par la société, par d'autres médias, et comment est-ce qu'il y a un rendu qui est fait entre ces différents médias. Et
j'ai hâte.
Ah là là, ça va être incroyable. Et en plus, c'est le moment où il y a Jumanji qui ressort, un peu la folie, quoi, waouh.
Parfait.
Parfait. Et puis, donc on parlera de ça, puis on on parlera de la notion de reconnaissance, effectivement, sur sur la notion de nombre. Enfin voilà, on vous dit pas tout maintenant.
Eh bien, dans ce cas-là, on conclut.
Voilà.
Et donc, on vous dit
jouez bien.